Bonsoir à toutes et à tous, c'est dimanche soir, c'est l'heure du Grand Fauve. À l'affiche ce soir, un géant au royaume du catch. Let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Le géant ferré, c'est moi. Avec 2m14 de hauteur et 171 kg de muscles. Mes violons dingues. À part le catch, c'est vraiment le cinéma et les courses automobiles.
André Roussimoff, d'abord surnommé Jean Ferré, avant que les Américains ne le rebaptisent André le Géant, fut un catcheur français hors pair, champion du monde en 1988, quasi inconnu en France. Il appartient encore aujourd'hui aux héros de la pop culture aux États-Unis. Athlète extraordinaire, géant facétieux, il fut digne d'un conte du vieux continent. À notre table cette semaine, trois invités pour ausculter la vie extra-large d'André Roussimoff. D'abord Christophe Lamoureux, sociologue, maître de conférences à Nantes et auteur d'une analyse intitulée « La grande parade du catch ». À ses côtés, un ancien catcheur devenu président de la Fédération française de catch, Marc Mercier, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. Et enfin, un journaliste du service culture du quotidien Libération, car Roussimoff fut aussi acteur à Hollywood. Léo Soesanto, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Et bienvenue à vous aussi, bien sûr. Et puis juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minanzio. Ce soir, avec le printemps, le retour du baseball. Vous êtes bien sur France Inter, dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, André Roussimoff, un géant au royaume du catch.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence avec une archive de 1957, année où Pierre Desgroupes, de l'ORTF, rendit visite au sémiologue et philosophe Roland Barthes, connaisseur émérite du catch, ce sport-spectacle qui l'intégra au rayon de ses mythologies. Ainsi donc, voici Roland Barthes en penseur du ring.
La vertu du catch, c'est d'être un spectacle excessif. On trouve là une emphase qui devait être celle des théâtres antiques. Ce que le public réclame, c'est l'image de la passion, non la passion elle-même. Il n'y a pas plus un problème de vérité au catch qu'au théâtre. Ici comme là, ce qu'on attend, c'est la figuration intelligible de situations morales ordinairement secrètes.
À une époque, je suis allé très souvent au catch, surtout dans une petite salle assez populaire qui est l'Élysée-Montmartre. Et j'ai toujours été très frappé par le fait que ce spectacle dit sportif, n'est-ce pas, en réalité, recoupait assez ce qu'on connaît par exemple de la Commedia dell'arte. N'est-ce pas, c'est une sorte de scénario sur lequel les catcheurs improvisent des épisodes. Mais tous ces épisodes et ce scénario ont, à mon sens, un sens essentiellement moral, c'est-à-dire qu'il s'agit de mimer et d'improviser les images ancestrales, en quelque sorte, du combat, avec la figure de la justice, du triomphe, de la défaite, du supplice, et c'est surtout ça. Alors essentiellement du paiement. C'est pas oui. Car la justice du catch est une justice du paiement. On entend très souvent le public crier « fais-le payer ». Oui. Il s'agit de faire payer le salaud.
Faire payer le salaud et admirer le géant, figure incontournable des contes populaires. Voici l'histoire du dimanche soir. Il exista naguère, au royaume du catch, un facétieux géant. Fils d'un paysan bulgare et d'une métayère polonaise, André Roussimoff est né en France, en Seine-et-Marne, le 19 mai 1946. Toutes sortes de légendes circulent à son propos. A-t-il ou non fréquenté Samuel Beckett dans sa prime enfance? Engloutissait-il 15 steaks et 12 homards en un repas? Mesurait-il 2m10 ou 2m24? Alors de quoi est-on à peu près sûr à propos de celui qui fut surnommé André le Géant? Eh bien voici la réponse d'un reportage en février 1966. À l'orée d'un bois, en région parisienne, le journaliste s'adresse à un bûcheron. À l'époque, notre géant du catch se faisait appeler Jean Ferré.
Jean Ferré, en plein travail?
Oui.
Quel âge avez-vous?
19 ans.
Et vous mesurez combien?
2m10.
Mais dites-moi, le problème nourriture doit être terrible chez vous.
Ouais, ça peut aller, quoi.
Au point de vue viande
Il faut à peu près 600 à 700 grammes par jour.
Le pain?
Oh, un pain d'olive.
Et au point de vue boisson, bien sûr, du vin rouge, non?
Ah non, jamais. Du lait.
C'est pas vrai.
Ah ouais, ouais.
Mais dites-moi, vous vous destinez entièrement aux arbres, à la forêt et au métier de bûcheron?
Bah, plus pour l'instant. Maintenant, j'essaye de rentrer dans le catch.
Il est entré en catch et il est devenu une légende, cet André Roussimoff. Marc Mercier, vous êtes président de la Fédération Française de Catch, vous-même ancien catcheur glorieux. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, André Roussimoff, dit Jean Ferré, dit André le Géant?
Alors, évidemment, pour moi, comme pour tous mes confrères catcheurs, il représente une star incontestée du catch mondial. Évidemment, j'ai une autre image, moins fan, moi, puisque je fais ce métier aussi, et j'ai connu le Géant quand j'étais d'une part enfant, et quand moi-même, dans les années 70, j'ai commencé ma carrière chez le même promoteur que lui, même matchmaker manager. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'homme qui a, je crois, été le plus payé dans le monde du catch de tous les temps. C'est plusieurs millions de dollars à l'année. Alors qu'en France, il n'était qu'une attraction. Il a été pris au départ par Siri, qui a été son premier organisateur de catch.
Étienne Siri.
Étienne Siri, qui l'avait repéré dans la rue à la Ferté-sous-Jouarre où il habitait. Enfin, il habitait un petit bled qui s'appelait Molienne, je crois, un truc comme ça, du côté de la Ferté-sous-Jouarre.
Et il l'a région fait, parisienne.
Voilà. Mmh. Il l'a fait catcher. Et après, il est venu chez mon patron, Roger Delaporte, le célèbre Roger Delaporte, qui était propriétaire de l'Élysée Montmartre.
Dont vous l'avez rencontré?
Ah ben moi, non seulement j'ai rencontré, mais après j'ai catché avec lui. Parce qu'il faut savoir que quand il est parti au Canada puis aux États-Unis, enfin je répondrai à vos questions, il n'était pas sous contrat totalement à l'époque, il revenait en Europe. Il revenait faire des galas en Europe, dont en France. Et là, je l'ai connu, j'ai fait partie des programmes où il se trouvait.
Quelle impression il vous faisait?
Bah, j'en ai vu deux comme ça. J'ai vu lui et Hulk Hogan. C'est des messieurs très impressionnants, évidemment, parce que le côté 2m24, je vous dis tout de suite, c'est les Américains. On graisse toujours un petit peu dans notre métier, ce qui est normal.
Oui,
hein. On vend.
Bon. Oui, en vérité, on truque un petit peu.
Il était à plus de 2m10.
Plus de 2m10.
Et sur la fin, il faisait 245 kilos.
Mm-hmm.
Donc, comme autant vous dire que c'était quelqu'un de très impressionnant, un homme, par exemple, de votre taille, lui arrivait à la hanche.
Oui.
Vous comprenez?
Oui, ça donne évidemment. Voilà. Oui, merci de me prendre comme
non,
repère.
Non, pour donner
tout
un
tout le monde
exemple,
sait que je suis très petit comme ça, du coup.
Non, vous n'êtes pas très petit, justement, vous êtes moyen.
C'est gentil, Marc, merci. Voilà. Merci beaucoup. Léo Sauvé-Santo, vous êtes vous journaliste au quotidien Libération, aux pages culture. Alors, il est assez peu connu, cet André Roussimoff en France, mais c'est une immense star populaire encore aujourd'hui aux États-Unis, notamment grâce à Shepard Fairey, plus connu sous le nom de Obé. C'est un artiste, un street artiste. Qu'est-ce qui s'est passé avec Obé et André Roussimoff, Léo?
Oui, pour ceux qui ne connaissent pas le catch, enfin André le Géant, André Roussimoff, c'est d'abord une image qui est apparue dans les années 90, à la fin des années 80, sous la forme d'un sticker qu'on voyait essaimé partout dans les rues, donc d'abord à Providence, aux États-Unis, puis après sur la côte Est, et puis dans le monde entier. Ça a commencé d'abord comme un sticker où il y avait donc une image de André Roussimoff prise dans un journal, marqué Under the Giant, donc André le Géant has a posse. Donc André le Géant a une bande. Et c'était un clin d'œil assez ironique à la culture du skateboard, du hip-hop et tout ça, quoi. Et comme beaucoup de choses cool ou ironiques, enfin, ça part de quelque chose d'un peu idiot, mais qui devient viral, puisque tout le monde récupère ça. C'est presque un geste à la Marseille Duchamp. Et avec ce slogan, obéissez, tout droit sorti du film de science-fiction Invasion Los Angeles de John Carpenter, qui a aussi une connexion avec The Catch, puisque son acteur principal est Roddy Piper, qui est aussi un catcheur connu. Donc, c'est André, pour ceux voilà, qui ne connaissent pas The Catch, est une image voilà, qui est vraiment apparue dans le monde entier.
Il faut dire deux choses, Léo, c'est que Obé, tout le monde le connaît, ouais. Puisque Obé est l'artiste qui a mis en scène cette affiche d'Obama pour la campagne 2008, oui. Avec marqué Hope en dessous, hein, cette affiche dessinée, donc tout le monde sait qui est Obé. Mais à l'époque, on parle, on est en 89, hein, cette affaire de sticker. Et ensuite, il faut préciser que ce sticker, c'était sur les murs de toutes les villes américaines. Oui. C'était incroyable, c'était devenu vraiment une sorte d'icône populaire dans la rue, à Chicago, à Providence, à New York, à Los Angeles. Il était partout, André le Géant.
Et ça a même essaimé après dans le monde entier. Je pense qu'on a pu trouver des stickers comme ça au Japon, donc même en France. Donc...
Absolument. Christophe Lamoureux, vous êtes vous sociologue sociologue, auteur en 96 d'un passionnant récit intitulé La Grande Parade du Catch, où vous expliquez que c'est un sport spectacle, hybride et facétieux, dites-vous, héritier des grands Barnum du 19e siècle. Qu'est-ce que vous inspire André Roussimoff, ce surhumain débonnaire et fascinant, Christophe?
C'est un catcheur français très attachant, hein, qui a fait sa carrière en fait entre 1963 et 1992, d'abord en France, ensuite au Japon un peu, puis au Canada, puis enfin évidemment à la WWF aux États-Unis. Alors ce que peut-être je pourrais ajouter, c'est que il faudrait évidemment explorer beaucoup plus d'où vient cette mythologie du géant dans la littérature populaire, dans les récits enfantins, dans les dessins de presse, dans les spectacles de force ou même dans le carnaval. C'est une mythologie ancienne qui fascine, qui a parfois à voir avec le grotesque, et surtout elle évoque évidemment le vertige de la toute-puissance physique. Et ce que je peux dire peut-être du personnage d'André le Géant, c'est que sa taille, son poids, ce qu'on appelle la physiognomie, c'est-à-dire le fait que le physique tout de suite donne une valeur psychologique, si vous voulez, eh bien tout ça, ça lui donne une force tranquille, hein, d'un homme capable de soulever des montagnes. Sa corpulence, je dirais qu'elle étonne, mais elle n'inquiète pas. Et donc, ça donne le sentiment qu'il n'a pas besoin, finalement, d'en faire trop sur le ring, d'interpréter un personnage de scène pour se faire aimer du public. Bon. Et cette anomalie, évidemment, hors du commun, me semble-t-il, il n'est pas le seul, hein, est en soi au catch un capital, en fait, hein, qu'il a su exploiter dans son gimmick. Et ce qui cristallise, c'est une image de héros sympathique, méritant, audacieux, courageux, quoi. Bon, mais aussi modeste, hein, dans sa manière de se comporter sur le ring. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'au début des années 90, il n'est plus le seul géant sur les rings. Hein. D'autres catcheurs, au physique démesuré, beaucoup plus bodybuildés, sont venus lui voler la vedette. Mais ce sont tous des méchants, arrogants, provocateurs. Ce qui n'est pas le cas d'André Ferré, sauf peut-être à la fin de sa carrière. Et donc, pour le dire peut-être trop vite, c'est le genre de catcheur venu du fond des âges d'un imaginaire anthropologique qui plaît au public familial et enfantin, qui évoque ce catcheur hors norme comme si son personnage attachant venait réconcilier, j'y insiste, des générations de public et de fans de catch. Voilà le sentiment que j'ai.
Marc Mercier, revenons aux origines. André Roussimoff est né en Seine-et-Marne, en région parisienne, en 1946. Oui. Son père était bulgare, oui. Sa mère polonaise. Oui, oui. Dans quel milieu il grandit, André Roussimoff?
Alors, ils étaient une famille de 5 enfants. Son père avait une ferme. Alors, on a dit qu'il était bûcheron, il n'a jamais été bûcheron. Il allait effectivement chez Beckett, qui connaissait, que la famille connaissait.
Alors attendez, Beckett, c'est Samuel Beckett, hein, le grand, oui, dramaturge irlandais, prix Nobel, voilà, de littérature, un des grands écrivains du XXe siècle. Donc,
exactement.
Il allait chez Beckett petit, raconte-t-on.
Voilà, c'est ça. Et c'est chez Beckett qu'il coupait du bois, tout simplement.
Eh oui.
Alors, parce que Beckett avait des forêts...
Et il avait un petit hameau aussi, Beckett, voilà, près de là où vivaient les parents d'André Roussimoff.
C'est toute la région de Coulommiers. Mais très vite, alors il a fait un peu de rugby. Il a fait un peu de rugby, mais ça n'a pas été son truc. Et je vous dis, ça a été très très vite pour le géant, puisque Siri, Étienne Siri, qui se balade dans une rue de la Ferté-sous-Jouarre, voit ce monstre. Hein. D'ailleurs, au Japon, il était nommé Monster Roussimoff. Et il voit ce monstre, il l'aborde, il l'emmène rue des Martyrs, la salle d'entraînement de catch qu'il y avait à Paris. Et voilà, quoi, ils ont... Mais le problème de la France par rapport aux Américains, les Américains, ils ont ce génie du spectacle qui fait qu'ils ne... Plus c'est grand, plus c'est gros, mieux c'est. Alors que nous, en France, c'était différent. Les stars, à l'époque, c'était le Petit Prince, c'était des gens pas très gros, René Benchimoun, c'était des 60-80 kilos. Après, il y avait les personnages, l'Ange Blanc, le Bourreau de Béthune, etc.
Ah, le Bourreau de Béthune, oui.
Voilà, que j'ai connu aussi, Jacques de Cresse. Mais, si vous préférez, un homme comme le géant Ferré, c'est ce qu'on voyait dans les baraques foraines. Vous savez, la femme à barbe, l'homme le plus fort du monde.
Les grands Barnum, donc.
Voilà, et donc c'était plus une attraction, Jean, qu'autre chose qu'un catcheur. Si on venait voir du catch, on venait voir les Benchimoun, les Zarak, les Petits Princes. Et si on venait voir une attraction, on venait voir Jean.
On ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il y a tout un imaginaire, mais aussi qui tient du réel, puisque ce géant qui sort des contes imaginaires existe dans la vraie vie. C'est là où il est, à la frontière du réel et de l'imaginaire.
Oui, il y a ces histoires de beuverie où il était apparemment capable d'engloutir une centaine de bières et pouvoir se lever le matin, 6h du matin, frais comme un gardon pour pouvoir aller donc, en tournée et tout ça. Mais je pense surtout que derrière, vous parlez de réel, il y avait aussi autre chose de plus triste derrière, enfin, derrière ces histoires de beuverie et tout ça, c'est que bah, il buvait beaucoup forcément parce que vous atteignez cette taille, la maladie et vous avez cette carrière-là, bah, vous avez mal, vous souffrez. Et par rapport effectivement à d'autres catcheurs donc du circuit qui recouraient aux drogues, aux antidouleurs et aux caïmans, bah, André Roussimoff préférait boire pour calmer la douleur. Quoi.
Absolument, Marc, merci.
Oui, alors je vais donner une petite précision et vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce qui s'est passé et moi-même, j'ai eu recours à ce cocktail pour pouvoir monter sur un ring puisque j'ai été énormément blessé lors de ma carrière et sur la fin de ma carrière, vu que j'ai été trop loin, je mélangeais, avant de monter sur le ring, de l'alcool avec des cachets. Mais comme il était grand et il était énorme, hein, il était à plus de 240 kilos, ce qu'il buvait sur la fin, c'était inconcevable pour un corps humain. On se demande comment il faisait pour avaler tout ça. Mais c'était parce qu'il souffrait énormément. Il a énormément souffert les 5-6 dernières années, puisque vous vous rendez compte qu'à son âge, ses os poussaient encore, mais tout, hein, la mâchoire, absolument tout. C'était... Et puis il avait du mal à se déplacer. Et voilà, quoi. Il lui fallait des gars en face, comme Egan, enfin des catcheurs hyper professionnels, pour pouvoir jongler avec tout ça, quoi.
Il voulait pas se faire opérer, enfin c'est une
maladie. Il voulait pas se faire opérer, mais je vais vous dire quelque chose, en fin de compte. Ça a fait, ce sacrifice-là a fait que c'était beau à voir quand même, vous voyez?
Christophe, en parlant des États-Unis, justement, Marc Mercier le précisait, il est parti assez vite, en fait, Jean Ferré, qui va devenir André le géant aux États-Unis, il est parti dès 66. Ce continent oui. nord-américain, il a un rapport très particulier au catch. Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que c'est le pays des récits édifiants, comme vous dites? Pourquoi le catch a une place si importante dans le continent nord-américain?
Je dirais qu'au Canada, il restait encore cette tradition du catch à l'ancienne, des troupes familiales, au Québec par exemple. Hein. Mais aux USA, c'est le pays de Buffalo Bill, des grands Barnum, hein, dont le catch avait beaucoup plus tôt, me semble-t-il, emprunté à l'univers des freak shows, de l'heroic fantasy, des comic books. Bon, et beaucoup plus tôt qu'en France, on pourrait dire la grande mascarade, en fait, trouvait un souffle nouveau. Qui avait complètement relooké le catch et qui l'avait vraiment transformé en grand spectacle. Un de mes collègues historiens, qui s'appelle Stone, en 1972, avait écrit un article remarquable qui s'appelle « Great American Passion Play », où il avait attiré, déjà en 72, hein, l'attention sur toutes ces questions dans un article pionnier. Donc, aux États-Unis, c'est le ring de toutes les audaces. Hein. Le déroulé des combats offre au public un récit édifiant, alors de la lutte du bien contre le mal, même si aujourd'hui j'ai parfois le sentiment, mais même hier, hein, que c'est presque la logique du pire qui prend le dessus plutôt que celle du bien et du mal. La logique du juste contre le trait, du mastodonte contre le gringalet. Hein. Donc finalement, c'est l'hypertrophie du grand show que le catch américain a démultiplié, voire même mis en abîme dans un vacarme commercial et promotionnel étourdissant. Hein. Donc voilà ce que je pourrais dire, et peut-être que je pourrais ajouter aussi que derrière tout ça, il y a beaucoup de stéréotypes sociaux, nationaux, qui concernent aussi les rivalités interethniques, les rivalités entre groupes sociaux, entre les gens du Sud et du Nord. Bon, le spectacle de catch, en particulier dans les années 90, donc j'ai envie de dire que André le Géant est déjà parti, ou presque parti, à ce moment-là, il me semble que le catch américain est vraiment à son apogée, et il y a tellement de figures stéréotypées, mais ô combien élaborées, hein, beaucoup plus subtiles qu'on le croit, qui se battent sur les rings, et qui font qu'évidemment, en France, il n'y a pas d'équivalent, même si, je tiens quand même à le préciser, parce que je veux aussi réhabiliter,
J'espère que Marc Mercier l'appréciera. Toute la, comment dire, réhabilité en France, aussi toute une tradition du catch où viendrait, comment dire, s'échouer, je dirais que ça comme ça, toutes sortes de référents de la culture populaire, hein, ce grand rire frondeur, quoi, hein, dont parlait le grand écrivain Bakhtine lorsqu'il évoquait à la Renaissance, en référence à Rabelais, le savant et le populaire.
On va faire une pause musicale avec les Doors, le titre joué dans le jukebox ce soir sur Inter, Peace Frog. Soyez irrévérencieux, voici le roi lézard.
Père était bûcheron dans la forêt de Molière, en Seine-et-Marne. Et pour ce bûcheron, c'est maintenant l'heure à hache.
Philippe Collin.
Hop ! Et Jean Ferret, les cartes ne savent quoi la frire. Regardez cette main, elle couvre le visage, on ne voit plus rien. Ben, oh là 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 là, qu'elle a claqué celle-là. Jean Ferret est déclaré vainqueur, champion du monde des poids lourds. Ici, le palais de la mutualité. Télévision française.
Sur France Inter. En 1968, Roger Couder commentait en direct les matchs de catch à la télévision française. Et à l'époque, sur le ring, André Roussimoff était surnommé Jean Ferret en référence à un héros picard de la guerre de Cent Ans avant qu'il ne devienne André le Géant en 1971. Nom qui lui fut attribué par les promoteurs de la Ligue professionnelle de catch aux États-Unis. Installé donc au pays des mythes, André Roussimoff a fini par croiser la route d'Hollywood en 1987 notamment. Il interpréta le rôle de Fezzik, lutteur danois, dans Princess Bride de Rob Reiner.
Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
On va s'affronter comme Dieu l'a voulu, de façon sportive, sans ruse, sans armes. Le talent contre le talent.
Tu veux dire... Tu poses ta pierre, je pose mon épée et on essaie de se tuer comme des gens civilisés?
Je pourrais te tuer tout de suite.
Franchement, Je crois que les chances sont plutôt de ton côté au combat, Manu.
C'est pas ma faute si je suis le plus grand et le plus fort. Je ne m'entraîne même pas.
Dis donc, tu essaies de te foutre de moi ou quoi?
Je veux que tu saches que tu as fait de ton mieux. J'aime pas voir les gens mourir embarrassés. T'es rapide, hein?
Heureusement pour moi.
Pourquoi t'as un masque? T'as été brûlé à l'acide ou à un truc de genre?
Oh non, c'est simplement très confortable. Je pense que tout le monde en portera à l'avenir.
Eh oui, tout le monde porte des masques à l'avenir. Vous êtes journaliste, Léo Soesanto, à Libération, page culture. Pourquoi cet extrait de Princess Bride de Rob Reiner? Parce que Roussimoff était effectivement un immense catcheur, mais il est aussi devenu acteur à Hollywood. Alors, pas beaucoup de films, Léo, mais suffisamment pour imprégner une mémoire collective populaire.
Oui, je pense que Princess Bride, c'est un peu le film idéal pour André. Enfin, c'est en plus, c'est un film qui n'arrêtait pas de repasser en VHS à tous ses copains, en tournée, à la maison, comme ça. Tellement il était fier, en fait, d'avoir joué dans un bon film et d'avoir joué un bon rôle. Et Princess Bride, ouais, de Rob Reiner, c'est un conte de fées parodique, donc, où André a sa place comme géant, comme bon géant. Un géant pour enfants, gentil, intelligent et tout ça. Et, je pense que s'il était resté en France, il aurait fait un très bon Obélix, André Roussimoff.
Oui, sans doute.
Son problème, au cinéma ou à la télévision, c'est de transposer dans un contexte réaliste. Moi, je me souviens, la première fois où je l'ai vu, c'était à la télévision, c'était dans un épisode de L'Homme qui valait 3 milliards,
oui.
Où il était maquillé, il jouait le Bigfoot. Donc, Bigfoot, c'est le Yeti américain, donc c'est une espèce d'homme-singe. Et bon, c'est un monstre, quoi. Et après aussi, il joue dans Conan le Destructeur, contre Schwarzy, en fait.
Oui. La suite de Conan le Barbare.
Et c'est une espèce de match de catch avec Schwarzy, où il joue Dagot, un espèce de dieu cornu. Il n'est même pas crédité, d'ailleurs, au générique. Mais... Il a marqué les mémoires, enfin, dont la mienne d'ailleurs.
Christophe Lamoureux, vous êtes sociologue, je le rappelle, vous avez beaucoup travaillé sur le catch, sport-spectacle où les spectateurs s'abandonnent aux mensonges des récits et des héros. André Roussimoff, est-ce qu'il a le même rôle sur la pellicule que sur le ring? Qu'est-ce que vous en pensez, ça?
Le rapport catch-cinéma, parce que depuis lors, je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années sur la sociologie du cinéma et la sociologie des films, donc cette question m'intéresse beaucoup, parce que, si vous voulez, le rapport entre le catch et le cinéma, c'est assez stimulant, parce que finalement, elle pose la même question de la croyance, hein, à un univers de fiction qui accomplit, la fonction divertissement, hein, que je prends très au sérieux. Hein, divertir, au sens étymologique, et je m'arrêterai là, hein, ça veut dire faire diversion avec le réel, détourner de ce qui contraint les gens, et en même temps, les transporter mentalement dans un univers de jeux complices, de jeux convenus, quoi.
C'était la grande vertu du catch, Christophe, aussi.
Absolument. Absolument, c'était vraiment la grande vertu du catch, c'était effectivement de proposer un sport fiction, hein, dans lequel les artistes, les lutteurs sont aussi des grands comédiens, qu'ils prennent un malin plaisir à brocarder, à transgresser, c'est un mot important le mot transgression, à transgresser les lois du sport en règle, quoi, hein, quitte à exagérer à outrance, donc tout ce qui peut finalement créer un contact permanent avec le public, c'est ça le travail du business, hein, est une bonne chose, bon, avec évidemment cet affrontement entre les bons et les méchants, mais je pense que c'est encore plus compliqué, parce que finalement les méchants sont autant adulés que les bons, quoi, désormais.
Marc Mercier, comment est-ce que vous regardez cet André Roussimoff, gamin de paysans bulgares et polonais, devenu vedette américaine, voire un mythe du catch mondial, pardon? Comment vous le regardez?
J'ai une autre odeur dans tout ça, c'est-à-dire que je suis contre complètement l'injustice, en réalité, je suis un révolté. Et je dis que cet homme-là a été très mal considéré à ses débuts, et que on s'est un peu foutu de sa gueule quand même, en France. C'était une marchandise, c'était le gros con, voilà. Et je dis que bravo mec pour cette magnifique réussite. Voilà comment que je le vois, quoi. Parce que dans le catch, il y a de tout. Cette parodie du catch où on relève des faits de société. À l'époque, le bourreau de Béthune, quand les gens étaient pour la peine de mort, l'ange blanc, le justicier, le petit prince, tous ces personnages. Lui, il en faisait partie aussi. Il faisait pas. Et dans le catch, on trouve de tout. Moi, quand j'ai des jeunes chez moi, il n'y a pas besoin d'être beau. Un petit tordu, moi je vais le faire briller. Un gros, je vais le faire briller. Un très beau, je vais le faire briller aussi. C'est ça aussi le cas, vous comprenez ?
Léo, je reviens au cinéma. Les années 80, c'est aussi une décennie du muscle puissant, des corps bodybuildés. C'est Sylvester Stallone, bien sûr. C'est Schwarzenegger et c'est André Roussimoff. Est-ce qu'il est aussi l'homme de son temps au cinéma quand il expose comme ça ce corps extra large ?
Oui, enfin, comparé à Schwarzenegger et à Stallone, il n'avait pas, j'imagine, le même point de carrière que Schwarzenegger, qui était vraiment... Quand il est apparu, il était un peu traité comme Roussimoff, c'est-à-dire il était trop grand, trop bizarre, il y avait un accent imprononçable, et voilà. Mais Schwarzenegger avait un plan de carrière pour conquérir le monde, presque nietzschéen, donc il s'est forgé, il a fait sa carrière. Et Roussimoff, je pense, peut-être par timidité ou sûrement par complexe par rapport à son physique et par rapport à sa stature, n'a jamais voulu aller dans ce plan schwarzeneggerien pour vraiment conquérir le public. C'était plus sa force tranquille, quoi, quelque chose d'un peu plus rassurant, comme cette image des bons géants qu'il a eu, quoi. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer ce qu'il aurait pu faire de nos jours. Moi, j'aurais très bien vu dans un film Marvel, derrière des effets spéciaux ou même dans un épisode de Game of Thrones, quoi.
Mon invité est un garçon bien sympathique, un lutteur que vous connaissez bien, et ceux qui aiment la lutte, d'ailleurs, je pense, l'apprécient beaucoup. Il s'agit de Jean Ferré, qu'on appelle ici le géant Ferré, et aux États-Unis, André the Giant.
Ouais.
Bonsoir, Monsieur Ferré.
Le plaisir.
On vous voit plus très très souvent à Montréal.
J'en reviens quand même de temps en temps. Ouais. Ça fait vraiment plaisir de revenir.
Montréal, ça a été un petit peu la porte d'entrée du continent nord-américain pour vous, je crois. Hein.
C'est ça. Je suis arrivé en juin 1971, puis je suis resté ici pendant 2 ans, puis après ça, je commençais à rentrer aux États-Unis.
Marc Mercier, vous l'avez précisé plusieurs fois, donc au milieu des années 80, André Roussimoff a des problèmes de santé, c'est de plus en plus difficile pour lui, le ring devient compliqué, donc la ligue de catch américaine de professionnelle met en place un concurrent qu'on appelle Hulk Hogan, évidemment, que les amateurs de catch connaissent par cœur, là aussi une sorte d'icône populaire, et donc leur confrontation à tous les deux ont passionné les foules, hein, au Japon, en Australie, aux États-Unis, ça a été un grand moment des années 80. Comment vous pourriez raconter cette époque à nos auditeurs ce soir?
Alors, eux, c'est des businessmen. Hein. Attention, il y a des actionnaires, il y a tout ça. Quand ils ont vu que Jean était sur le déclin, médicalement parlant, il fallait qu'il décroche une star immédiatement. Mais face à un mec comme ça, qui était annoncé à 2m45 pour 245 kilos, donc ils ont trouvé Hulk Hogan, qui était un bodybuilder de Miami. Et ils étaient loin de se douter le succès que ça aurait en mettant justement Hulk Hogan contre le géant. Et ça devenait une mécanique infernale, c'est-à-dire que tout le monde réclamait ce combat, le géant Ferré contre Hulk Hogan.
Et il y a eu un match incroyable à Pontiac. Ouais. Silverdome, Michigan,
ouais. Ouais.
93 000 personnes
ouais.
dans la salle,
ouais.
où Hogan va donc faire vaciller André le géant, le renverser,
ouais.
le projeter, ouais. un match incroyable.
Oui, alors, ils ont su vendre le truc surtout, parce que ils ont joué justement de l'handicap de Jean pour pouvoir monter un des combats mythiques de l'histoire du catch. Parce que c'est ça aussi le catch, s'approprier la faiblesse de l'autre, et construire autour de sa faiblesse. Et c'est ce qu'a fait intelligemment Hulk Hogan, qui d'ailleurs n'était pas un très bon technicien, mais il était tellement monstrueux lui aussi. Et là, ça a fait un combat mémorable.
Christophe Lamoureux, quel rôle joue Hulk Hogan dans le catch américain ? Comment vous expliquez son succès aussi colossal aux États-Unis et dans le monde entier d'ailleurs ?
Bah écoutez, il est arrivé précisément au moment, c'est ce que disait Marc Mercier, il est arrivé vraiment au moment où la WWF et ses concurrents étaient en guerre les unes avec les autres, hein, les fédérations. Et il a construit un personnage, si vous voulez, qu'a déclenché la WrestleMania, comme on dit, dans les années, la fin des années 90, début années 2000. Et il est devenu un personnage marketing aidant, business catch aidant, transition dans la pop culture aidant, etc. Il est devenu vraiment un personnage très très important, adulé des foules sur tout le territoire américain, avec d'autres, hein, il n'était pas le seul, mais c'est devenu vraiment une figure quasi tutélaire, quoi, hein, auquel on se réfère. Alors ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que disait Marc Mercier, avec qui je suis en total accord, c'est que ce business catch américain, pour pas dire hollywoodien, il a pris finalement le monopole, et surtout il a fait en sorte finalement aussi de créer du côté des fans toute une mémoire aussi, il faut y insister, toute une mémoire que l'on commente encore aujourd'hui et qui évidemment alimente encore la chronique, la légende, etc.
Christophe, pour conclure, le catch n'a plus le rayonnement qu'il a connu en France aujourd'hui. Or, pour reprendre Roland Barthes, par là où on a commencé, dans ses mythologies, il dit que le catch possède les vertus de la commedia dell'arte, c'est-à-dire notamment mimer les gestes ancestraux. Qu'est-ce qui a pu prendre le relais aujourd'hui, Christophe Lamoureux ?
Alors, par rapport à votre question... sur le déclin du rayonnement, je nuancerai beaucoup. Hein. J'ai, il y a 2 ans, écrit un assez long article à partir d'une enquête que j'ai fait auprès des fans de catch. Et le catch, en tout cas à la télé, sur le net, continue à bien se porter, hein, auprès d'un public de fans, alors qui est évidemment extrêmement segmenté en termes d'audience, en termes de centre d'intérêt. C'est pas nouveau d'ailleurs, hein, parce que un petit catch amateur, associatif, hein, continue à fonctionner en province, suscite de nouvelles vocations. Il y a même, on a commencé un peu par là dans votre émission, un phénomène d'artification du catch, hein, qui est apparu dans la pop culture et qui est donné au catch peut-être une légitimité culturelle qu'il n'avait pas, même si c'est un peu aller vite en besogne. Alors par rapport à ce que dit Roland Barthes, dans son fameux article inaugural des mythologies, publié à la fin des années 50, la commedia dell'arte, sans doute, il y a toute une veine anthropologique que convoque Roland Barthes, mais moi je serais plutôt pour dire que le catch, si vous voulez, réalise une sorte de théâtrum mundi, comme on dit dans le discours savant, qui fait que il continue largement à capter l'attention. Alors où est-ce qu'éventuellement il a migré en termes de centre d'intérêt? Peut-être les jeux vidéo, sans doute, hein, mais pas seulement. Finalement, tous les films d'action à grand spectacle qui ne sont plus les mêmes, hein, que celles dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire les films après le nouvel Hollywood, quoi, les films de la revanche américaine, hein, où la virilité était au premier plan, où la dimension du corps était très importante. Eh bien, même encore aujourd'hui, moi, il me semble que tout cet artefact ou tout ce grand spectacle des sensations fortes véhiculées par le cinéma d'action à grand spectacle que j'étudie plus particulièrement dans mes travaux sur le cinéma, là, eh bien, me semble aussi continuer à prendre le relais. Mais je ne serais pas pour dire que le catch a tant que cela rayonné. Il a même rayonné avant, hein, que la télévision arrive, parce qu'évidemment la télévision a joué un rôle tout à fait décisif, hein, Roger Coudert en particulier, mais aussi Claude Darget, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est une époque bénie, hein. Bon, mais même Michel Drucker a commenté le catch, bon, donc tout ça fait partie de l'histoire de l'ORTF, hein, bon, mais j'ai envie de dire, il a existé aussi à côté de la télévision, et il continue maintenant, à une échelle plus mondialisée, sur un marché beaucoup plus vaste, à assez bien se porter, mais sur des segments de public qui, je dirais, vont entre 18 et 40 ans, quoi. Hein, bon, et finalement, il a réussi à fédérer, j'en sais rien, mais plusieurs générations de catcheurs. Hein. Il y a le catch old school des années 50-60. Il y a le catch de Canal+, c'est celui sur lequel, dans mon livre, j'ai beaucoup travaillé. Et puis le catch d'aujourd'hui, qui est encore autre chose. Enfin, voilà ce que je pourrais dire.
Merci à vous trois d'être venus ce soir. Vous pouvez vous procurer ce livre passionnant de Christophe Lamoureux, La Grande Parade du Catch, aux presses universitaires du Mirail. C'est un livre qui date un peu, mais on peut mettre la main dessus. Vous pouvez également retrouver la plume de Léo Soesanto dans les pages culture de Libération, et également dans un livre qu'il signe, L'aéroport mise en scène, c'est-à-dire l'aéroport en cinéma, aux espaces et signes. Hein, c'est bien ça, c'est ça, la maison de l'édition. Merci à vous trois, en tout cas, bonne soirée à vous, salut.
L'œil du tigre. Philippe Collin sur France Inter.
Reste de ma nuit, chanson signée Hervé. On poursuit en musique avec La Victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minanzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année, à l'affiche ce soir, le plus américain des sports. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors, quel est l'objet de votre chronique ?
Le baseball. Car jeudi dernier a débuté la saison 2021 de la compétition phare de ce sport, la Ligue majeure de baseball, qui se dispute aux États-Unis et au Canada. Alors en France, on considère souvent, à tort, que les matchs de baseball sont répétitifs et trop longs. Je vais donc essayer de convaincre nos auditeurs du contraire à l'aide de quatre chansons.
Alors quel est votre premier argument pour vendre le baseball ?
Ce sport constitue un élément central de la culture populaire américaine dont l'essor au début du XXe siècle fut inséparable de celui de l'industrie du spectacle et des médias de masse. Je cite ici Peter Markey de l'Université de Rouen, un spécialiste de l'histoire des États-Unis. La popularité du baseball outre-Atlantique est telle que même les Ramones, groupe new-yorkais proto-punk, opposé à l'ordre établi, affichait sa passion pour cette discipline. Au point que, dans Beat on the Brat, un titre issu de leur premier album, paru en 1976, ils ont glissé une batte dans les paroles.
Est-ce qu'on s'oriente vers une chronique proto-punk ?
Non, rassurez-vous. Le prochain titre sera plus grand public. Il s'agit de Mrs. Robinson, tube de 1968, signé évidemment de Simon & Garfunkel, dont le dernier couplet évoque Joe DiMaggio éphémère mari de Marilyn Monroe et star absolue des Yankees de New York, dont il a défendu les couleurs entre 1936 et 1951. Car la glorieuse histoire du baseball recèle de figures charismatiques, dont l'aura dépassait les stades, comme Babe Ruth, l'idole des années folles, qui a eu droit à un biopic au cinéma en 1992, ou donc Joe DiMaggio, immortalisé dans un titre immortel.
Quel autre argument, Pierre-Étienne, pourrait inciter nos auditeurs à se passionner pour le baseball ?
Je dirais la fascinante portée politique de certains de ces champions. Tels Jackie Robinson, fils de métayer, petit-fils d'esclave, devenu en 1947 le premier joueur noir en Ligue majeure de baseball. Malgré son caractère réservé, il a combattu la ségrégation qui régnait alors aux États-Unis, ne serait-ce qu'en parvenant à rassembler dans les mêmes stades des spectateurs noirs et blancs. Le jazzman Count Basie lui a rendu hommage en 1949 avec son titre « You see Jackie Robinson hit the ball ?»
Yes, yes, Jackie hit that ball.
And when he swung his bat, the crowd went wild because he knocked that ball a solid mile. Yeah, boy.
Yes, yes, Jackie hit that ball.
Donc, si on résume, le baseball est un sport populaire, porté par des champions charismatiques, dont certains ont une dimension politique.
Oui, et j'ajoute que cette discipline imprègne tellement le quotidien des Américains que ceux-ci lui accolent souvent une dimension amoureuse, voire érotique. Mmh. En témoignent les dialogues étonnants évoquant le baseball qui émaillent la scène d'amour très chaste du film L'Arme Fatale 2, et oui, de Richard Donner en 1989. Dans le même esprit, écoutez cette chanson de 1968, Love is like a baseball game, du groupe Soul The Intruders, qui compare la tentative de séduction d'une jolie femme à un match perdu d'avance.
Il y en a eu pour tous les goûts ce soir, du proto-punk, du folk, du jazz et de la soul.
Oui, ce qui m'a inspiré cette conclusion. On peut mesurer l'impact sociologique d'un sport à la diversité des styles musicaux qui s'en inspirent.
Eh bien, on a une semaine pour y réfléchir. Merci beaucoup, Pierre-Étienne.
À dimanche.
Salut, à la semaine prochaine. Et voilà, cette 29e émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir, bien sûr, par H2M, Henri Marc Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de Grégory Wallon. Merci à lui, merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre. Arnaud Jamelin qui prépare cette émission avec moi. Merci à Thierry Dupin pour la programmation des Scuds et merci à Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter avec le compte L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr, bien sûr, pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire d'une icône mondiale du sport au XXe siècle, vie et destin du roi Pelé. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.